Bâle, Copenhague, Kiruna, Stockholm. Hyderabad, Istanbul, Mumbai, Sofia, Téhéran, Budapest.
Et sans cesse, le voyage recommence pour partir vers de nouveaux horizons.
Vienne, Lausanne.
Fred.
Julie. Julie.
Fred.
Fred et Julie.
Un week-end, en Eurasie. Konnichiwa.
Konnichiwa, Frédéric. Julie Dess, Fred-san.
Fred Dess, Julie-san.
Et oui, c'est la sixième étape de ce voyage eurasiatique.
Sur la radio suisse romande, la première.
Et aujourd'hui, c'est la deuxième heure que nous passons à Tokyo avec vous.
Et on va vous parler du Japon.
Mais pas de n'importe quel Japon. La dernière fois, c'était un Japon assez traditionnel, dans les petits quartiers de Bunkyoku, où nous sommes promenés à travers les temples, à travers des rues essentiellement en bois, enfin avec des maisons en bois, des plantes, des fleurs. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le même endroit.
Et non, hier c'était samedi, aujourd'hui c'est dimanche, le programme donc change. Et puis, la suite, samedi prochain, c'est encore un autre Tokyo qu'on vous présentera. Juste pour vous résumer, Fred et Julie sur la première, c'est tous les samedis, tous les dimanches, sur tout l'été, de 16h à 17h. Aujourd'hui, on vous parle de qui ? Il y a Edouard, il y a Aya, et puis on va écouter un peu de shamisen. Aujourd'hui, on va vous raconter ce Tokyo plus moderne, ce Tokyo plus paradoxal, entre la modernité et puis l'archaïsme. Et puis on va faire des rencontres, on va suivre le parcours très particulier d'Aya. Et tout à l'heure, on se donne rendez-vous sous le grand écran de la place Alta.
Tree no kaze ni wa. Donc, je m'appelle Edouard Delangue, j'ai 30 ans, je suis arrivé au Japon il y a 4 ans maintenant. Et je suis arrivé avec une bourse pour étudier plus précisément un peintre à Sendai. Sendai, c'est une ville au nord du Japon, à 400 km à peu près de Tokyo. Et puis j'ai eu la chance après de travailler à l'Alliance française pendant 2 ans. Et l'année dernière, j'ai eu encore la chance de pouvoir venir à Tokyo et travailler à l'ambassade.
Comment est-ce que tu as appris en fait le japonais? Comment est-ce que tu as choisi de faire le japonais?
En fait, j'ai commencé sans avoir vraiment l'intention de persévérer. C'était plutôt un essai. Et j'avais un ami qui était déjà étudiant à Langzhou. Donc à l'occasion, j'ai eu la possibilité de voir ce qu'il faisait, c'est-à-dire d'écrire des kanji, des mots qui m'étaient complètement étrangers à moi. Et je me suis dit, ah, si moi aussi je pouvais lire et écrire ça, ouais, ce serait vraiment original, disons. Et j'ai essayé en me disant que bon, je verrais, quoi. J'aurais pu choisir autre chose, à vrai dire le russe ou l'hindi. J'étais pas très fixé sur le Japon. Mais je me suis vraiment accroché après, ça m'a donné envie de persévérer. Et pendant 4 ans, donc, j'ai étudié à Paris sans être venu ici. Et c'est au bout de 4 ans qu'enfin j'ai pu découvrir. Et heureusement que ça m'a plu, parce que sinon j'aurais vraiment regretté, quoi. Ouais.
Maintenant, donc, tu es depuis un certain temps au Japon. Qu'est-ce qui te fait rester ici? Qu'est-ce qui te plaît plus au Japon? La façon de vivre?
Peut-être plus que le Japon, c'est le fait d'être à l'étranger. C'est-à-dire que si on me proposait ou si j'avais l'occasion un jour de rester sur une longue période dans un autre pays, je serais peut-être tout aussi intéressé d'y aller. Si je reste au Japon, c'est parce que je parle japonais, donc pour les contacts, c'est beaucoup plus facile. Il n'est pas sûr que si j'étais japonais, par exemple, j'aimerais autant le Japon. Mais je crois qu'en étant étranger ici, on est assez favorisé, on est plutôt considéré. Un aspect important aussi, c'est la sécurité. Je veux dire, ici, il n'y a jamais de... Donc, quel que soit le quartier, quelle que soit l'heure, il n'y a jamais de problème. Moi, je trouve la vie assez facile.
Et si, par exemple, maintenant, tu devais aller pour un poste en Inde ou, disons, aux États-Unis, quelle est la chose qui te manquerait quand tu penses au Japon?
La chose qui me manquerait? L'ambiance, en général, la langue japonaise. Je crois que même si j'habitais, par exemple, aux États-Unis, je chercherais à retrouver des Japonais pour pouvoir parler japonais.
Et quel est le quartier où tu préfères aller à Tokyo?
En fait, j'habite un quartier qui est près de l'ambassade et qui est le quartier des ambassades. Donc, c'est un quartier assez international qui n'est pas vraiment le Tokyo populaire, qui est en fait le Tokyo exotique. Si je devais déménager un jour, ce serait plutôt vers ce qu'on appelle le Shitamachi ici, quartier populaire. Et par exemple, près du marché aux poissons à Tsukiji. Là, il y a, si vous voulez, un endroit avec des canaux, des bateaux qui passent. Ouais, c'est le genre de quartier que j'aime. Il y a aussi les quartiers plus vivants, le quartier de nuit, Shibuya ou Shinjuku, où 24 heures sur 24, ça bouge beaucoup, c'est très animé, quoi. Voilà.
Nous sommes donc dans le quartier jeune de Tokyo, en fin d'après-midi, 4h, 4h moins 5. Nous sommes dans un restaurant iranien, car nos amis reviennent d'un voyage en Iran, et sachant qu'on va y aller d'ici une semaine ou deux, ils ont voulu nous inviter dans ce restaurant iranien. Donc le quartier, c'est Shibuya, quartier jeune, donc au cœur de Tokyo, et nous sommes en face de...
Aya.
Thomas.
Je suis... étudiante à l'université, j'étudie le droit de copier. Oui, copyright à l'université, à la maîtrise. J'ai quitté Paris à l'âge de 7 ans et demi, mais j'y ai été pendant 6 ans. Et lui, il est directeur au NHK et fait des émissions de news.
Comment news, non? News. News program.
Alors on se retrouve maintenant dans ce quartier. Quel est le nom de ce quartier ou de ces petites rues qu'on vient de visiter avec plein de love hotels? Est-ce que c'est un nom précis, ce quartier?
C'est un quartier qu'on appelle Maruyama-cho, l'endroit Maruyama. Juste devant des grands magasins, on peut trouver des petits love hotels. Des love hotels, c'est des hôtels pour des amants qui ne peuvent pas passer leur temps chez eux. Qui passent la nuit, par exemple, toute la nuit ou pendant 2 heures, et ça dépend le prix.
Donc un endroit où on va passer justement 2 heures, le temps de faire l'amour, ou le temps aussi de dormir, le temps de se raconter des histoires. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans ces love hotels?
On peut faire n'importe quoi, mais il y a aussi des karaokés, un bain et la télévision, et on peut aussi emprunter des vidéos si on n'a rien à faire. Mais je pense que le seul but, c'est de faire l'amour.
Comment sont ces Love Hotels? Est-ce qu'ils ont des décorations particulières? Est-ce que c'est des hôtels comme des hôtels normaux, une chambre triste, sobre, avec un lit? Ou est-ce qu'il y a des espèces de concurrence entre les Love Hotels pour qu'ils soient les plus extravagants, les plus érotiques?
Plusieurs Love Hotels sont normaux. Il y en a qui sont un peu plus érotiques. Il y en a, par exemple, avec des piscines, des toutes petites piscines dedans, où il y a des hôtels pour le SM. Il y a des choses, par exemple, il y a des croix pour attacher des gens, etc. Mais plusieurs sont normaux.
Minasan, yo koso. 世界中が待ちに待ったピチカート5の新しいアルバムがようやく完成しました。題してハッピーエンドオブザワールド。いつもチャーミングな野宮真紀さんといつも愉快な小西康晴さんがお届けする、それはもうたまらなくハッピーで愛らしい音楽の贈り物。決してあなたを飽きさせることはありません。楽しいドライブにも、そしてうっとりするような恋人たちの時間にも。それではどうぞ皆さん、最後までごゆっくり。
Là, on est sorti du café iranien et on visite le quartier
Mariamacho. Il y a plein de téléphone club, des clubs de téléphone sexe.
Et tu vas téléphoner là-bas?
Non, c'est seulement pour les hommes. On paye en avance et on prend les téléphones. Et les femmes, c'est gratuit. Elles peuvent téléphoner de chez elles. Les femmes de foyer, etc. Ils peuvent donner rendez-vous. Et se rencontrent, et quelquefois ils font l'amour avec des gens qui se voient pour la première fois. Là, c'est dans un petit quartier de Mariamacho, et il y a des striptease et des hôtels, des love hôtels.
Qu'est-ce que c'est là au fond?
C'est un temple japonais. Et on paie l'argent et on sonne la cloche. Et on fait des souhaits.
Donc en sortant du Love Hotel, on peut aller faire un souhait?
Ah oui.
Toi, tu vas parfois au Love Hotel, est-ce que tu vas parfois au temple aussi?
Moitié-moitié.
Moitié-moitié. Donc là, maintenant, on tourne à gauche, à 90 degrés, et on arrive dans une autre rue, avec à droite des maisons d'habitation, donc toutes fermées.
Oui.
Et à gauche, de nouveau, un sex shop ou un club.
Oui, 10 000 yens pour 35 minutes. On vous fait des services sexuels. Et là, c'est un adult goods shop. Ceux qui n'ont pas assez d'argent passent toute la nuit au karaoké. Et il y a des gens parfois qui font le sexe, qui font l'amour dans une cabine de karaoké.
Et les cabines de karaoké, ça coûte moins cher que les Love Hotels?
Beaucoup moins cher.
Mais c'est moins confortable.
Oui, mais il y a peut-être des gens qui préfèrent le karaoké pour faire l'amour. Il y a le risque d'être vu par quelqu'un. Les Japonais adorent chanter.
Oh. Et oui, nous sommes maintenant en dessous du grand écran Alta, du cinéma Alta. On s'est donné rendez-vous hier, vous souvenez-vous, on s'est dit, eh bien oui, demain, rendez-vous à Tokyo, sous l'écran Alta. Alors vous êtes là, on est là, et puis il y a plein de monde, c'est le lieu de rendez-vous par excellence, ce sont des milliers de personnes tout autour. Et cet écran, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un énorme écran, de 5 mètres sur 8 peut-être, avec des publicités, avec des lancements de films, avec des hommes, des femmes, avec des tas d'images comme ça qui se succèdent à une vitesse incroyable. Et puis des haut-parleurs très très forts diffusant les publicités, vous les entendez peut-être. Et puis, tout autour, différentes radios, différents émetteurs, différentes enseignes clignotantes. C'est vraiment le Tokyo qu'on imagine en fait, qui correspond à l'idée qu'on peut avoir ici à travers les films, à travers les images.
Et sous cet écran, en fait, toute la jeunesse de Tokyo se donne rendez-vous. Donc c'est vraiment un lieu assez étonnant, parce qu'on voit des bandes de filles, 3, 4, qui se tiennent par la main, habillées de façon complètement déjantée. Elles ont plusieurs jupons les uns sur les autres, des chaussures de couleur, et surtout elles ont toutes, la plupart, des cheveux décolorés, elles sont très maquillées. Donc c'est vraiment la jeunesse avant de rentrer dans le moule. Et puis il y a de temps en temps des couples aussi, des couples qui se ressemblent, ils sont toujours identiques, le garçon et la fille. On dit toujours que c'est la fille qui donne le ton dans le couple, dans les couples de jeunes à Tokyo. Et en fait, c'est le lieu donc de rendez-vous avant de partir faire la fête, boire des verres, aller au cinéma, dépenser de l'argent de toutes les façons possibles.
Et avant de continuer la visite du quartier, seul ou ensuite de nouveau avec Aya qui va nous parler d'autres choses, il faut vraiment qu'on vous dise le plaisir qu'on a à être à Tokyo. C'est vraiment à travers ce voyage, on a commencé par le nord, le cercle polaire, Singapour, Tokyo, plus tard on ira en Inde, en Iran, mais vraiment, le Japon, c'est le coup de foudre, parce qu'on s'attendait à rien du tout. Et puis on est là, et puis d'abord on a fait cette visite qu'on a eue hier, qui était plus le Tokyo traditionnel, qui nous a permis justement de sortir des clichés, de sortir de cette idée reçue de, ben voilà, Tokyo, c'est des grandes enseignes lumineuses. Et non, c'est plein d'autres choses. Mais tout d'un coup, de pouvoir apprécier ces enseignes lumineuses, tout en ayant d'abord connu les Japonais dans leur intimité, dans leur douceur, dans leur sincérité, et bien pour moi, c'est vraiment le coup de foudre pour cette ville. Et puis on a l'impression d'un coup que tout est possible. Surtout étant français, enfin suisse, mais francophone, et bien il y a une attirance parce que personne parle français, donc tout le monde a envie de suivre des cours de français, par exemple, et on a l'impression qu'on pourrait y rester et que tout serait possible.
Et avant de repartir à la découverte de ce quartier avec Aya, moi je voudrais juste revenir sur les couples, en disant que ce qui nous a frappé, ce qui m'a frappé en tout cas, c'est qu'il n'y a pas du tout de marque de tendresse, de sensualité entre les couples japonais. On ne s'embrasse pas, on ne se prend pas dans les bras, on ne se caresse pas en public, enfin, on ne se donne pas de petites tapettes, enfin, il n'y a rien du tout qui indique une certaine tendresse entre les couples. Et paradoxalement, il y a donc cet aspect de non-sensualité d'un côté, et de l'autre, il y a une très grande prostitution enfantine, adolescente. C'est-à-dire que tous les images d'enfants et d'adolescents sont toujours ambiguës. On les trouve dans les magazines, dans des films, sur les sites internet au Japon, les sites porno, il y en a 3000. On dit que sur les 3000 sites, il y en a 40% qui utilisent des images de jeunes enfants. Donc c'est une société qui est très paradoxale, qui à la fois ne montre aucune sensualité, aucun érotisme, et de l'autre côté, il n'y a aucun tabou concernant la pornographie. Donc les mangas, les bandes dessinées, etc. sont toujours assez violents, assez crus. Et ce n'est que au mois de mai, il me semble, qu'il y a eu une loi qui commence à dire « faudrait peut-être faire attention, on n'utilise pas les images d'enfants à toutes les sauces ».
Et ça c'est encore un paradoxe en fait entre cet archaïsme et cette modernité du Japon, où par exemple, on en parlera plus tard encore avec Aya, mais où les filles ont l'obligation jusqu'à 25 ans, 26 ans, jusqu'à ce qu'elles se marient, donc elles habitent encore chez leurs parents avant ça, de rentrer pour 11h ou de rentrer pour minuit, elles n'ont pas le droit d'aller dormir chez leurs petits copains, donc il faut toujours s'inventer des histoires, je suis chez une copine, je t'appelle à 11h, etc. Mais on y reviendra. Donc ce mélange de ce cloisonnement, enfin de cette vie sociale et familiale très très rigide et de cet éclatement total de la jeunesse. Et puis maintenant, ben on va repartir, on va quitter l'écran Alta et puis on se balade là dans les rues et puis on arrive dans
là,
une petite rue.
Il y a une petite porte, en fait bleue assez grande où il y a l'air d'avoir plein de jeunes qui commencent à l'ouvrir et puis à rentrer dedans. Alors on les suit pour voir ce qu'il y a.
C'est un sous-sol, tout en dessous d'un centre commercial. Il y a peut-être 5 étages à descendre avec des stroboscopes et des affiches partout au mur, des lampes qui clignotent, on hésite, on cherche les marches et on descend. Et c'est là en bas que se trouve le temple du manga. C'est là en bas qu'on va découvrir cet univers grouillant d'un monde qu'on ne connaît pas ou très peu, qui en tout cas ne nous attire pas spécialement en Suisse, même s'il y a de plus en plus d'adeptes. Ici, ce sont des centaines, en tout cas plusieurs, ouais, des centaines de jeunes qui s'agglutinent pour trouver leurs disques et leurs bandes dessinées préférées. Quelle merveilleuse chanson que nous entendons là à l'instant. C'est l'exemple type de la musique d'aujourd'hui au Japon.
C'est vrai, il n'y a plus que des versions chantables qui sont présentées sur le marché, donc, c'est-à-dire des chansons chansonnettes avec la version instrumentale et les paroles écrites sur le disque pour que tout le monde à la famille puisse chanter en même temps.
Et oui, le karaoké au Japon, c'est toujours la mode. Rien à voir avec chez nous où on a des lieux publics et on va entre copains, copines pour s'exhiber et chanter et s'amuser. Là-bas, ce sont des sortes de cabines, un peu comme des love hotels tout à l'heure, où on paye l'entrée et on va à 5, 6, 10 ou 20, suivant la grandeur des cabines.
Ou deux,
mais c'est un peu limite, où il y a des caméras, on en entendra parler plus tard, pour surveiller un peu ce qui s'y passe. Et on y va avec des collègues de travail, ou des amis, et puis on chante. Donc on a une télévision, on a des chansons dans toutes les langues du monde, on a un micro, il y a des petites banquettes, on se commande une petite bière à boire, et puis on chante comme ça, mais pas question d'aller d'une cabine à l'autre pour voir ce que font les autres.
Et puis maintenant, on repart avec Aya, vous l'avez déjà entendu tout à l'heure, on est avec elle depuis un moment. C'est une personne un peu étrange qui nous parle de sa vision de la jeunesse de Tokyo.
J'ai l'impression que maintenant la société évolue beaucoup au Japon ces dernières années, que les nouvelles générations bousculent beaucoup les traditions. Est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est réel ?
Oui. Ces deux années ou trois années, les lycéennes ont vraiment changé. Il y a beaucoup de lycéennes qui achètent, par exemple, Chanel, Louis Vuitton, etc. Et elles font du prostitution. Et c'est l'argent de ça qu'elles peuvent acheter des choses très chères. Il y a des hommes qui aiment les lycéennes avec leur uniforme et même après leur diplôme, elles s'habillent comme ça, comme des lycéennes et elles font semblant d'être encore lycéennes et elles cherchent des clients dans la vie, comme Shibuya.
Comment c'est perçu dans la société ? Parce que tout le monde nous parle de ce phénomène de prostitution des jeunes adolescentes. Est-ce qu'il y a une répression ? Est-ce que les parents s'en rendent compte ?
La plupart des parents ne s'en rendent compte pas. Elles sont très sérieuses à la maison. Elles rentrent avant minuit. Elles font semblant de travailler à l'école, même si elles ne vont pas à l'école. C'est pourquoi les parents ne s'en rendent compte jamais. Et même la police a averti que c'est du crime de faire cela. Mais ça n'a rien changé. Au début, peut-être deux ou trois filles de la classe avaient des bagues, des sacs de Louis Vuitton, etc. Mais ils ont eu envie d'en avoir aussi. Et comme tout le monde a commencé à faire des choses là, c'est devenu très commun. Je pense que c'est pas trop mal, mais ils peuvent passer leur temps à autre chose, peut-être. Ils peuvent mener une vie plus culturelle parce que c'est du gâchis de passer leur temps de 15 ans, 16 ans, de faire seulement du prostitution. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver après ? Ça, je me demande. Elles ont passé leur vie à acheter des choses très chères et après, elles n'ont rien. Quand elles se rendent compte qu'elles ne sont plus jeunes, pour faire semblant d'être lycéennes, etc. Peut-être qu'elles vont se marier, qu'elles vont trouver des hommes vulgaires, quand dit-on, qui ne sont pas trop riches, etc. Elles doivent être frustrées, je pense.
J'ai l'impression que c'est une jeunesse qui se veut marginale, dans le look en tout cas. Est-ce que ces gens-là, une fois qu'ils ont terminé leurs études ou bien leur apprentissage ou je ne sais quoi, est-ce que c'est ces gens-là qui vont rentrer dans le monde professionnel japonais ? Est-ce que ces garçons qu'on voit avec les cheveux verts ou blonds, est-ce qu'ils rentrent dans les entreprises toutes carrées où tout le monde doit être pareil et faire son jogging le matin avec l'entreprise, etc. ?
Je pense qu'ils vont changer à la fin de l'université. Pour chercher le travail, ils vont colorer leur tête noire, ils vont mettre des habits plus sérieux et à la première année à l'entreprise, ils vont être tout à fait typiquement japonais.
Donc c'est eux qui vont changer et c'est pas les entreprises qui vont changer.
L'entreprise ne va pas changer, c'est les gens qui vont changer. Il y avait des années qui s'habillaient comme ça, quand ils auront 24 ans ou 25 ans, ils seront typiquement japonais, des salariés japonais.
Et c'est pas triste ça ?
c'est pas triste parce que c'est grâce à cette énergie sérieuse que l'économie japonaise marche. La tradition des entreprises japonaises ne peut pas changer.
Et puis alors toi, tu aimes particulièrement ce quartier, pourquoi ?
Eh bien, je travaillais dans ce quartier, je faisais reine dans un SM club il y a un an, et pendant un an, il y avait beaucoup de gens, on s'appelle salaryman, ceux qui sont payés des salariés au Japon, et qui ont aidé l'agrandissement économique il y a 20 ans, etc. Beaucoup de ces gens sont un peu fatigués de leur vie. Et comme ils ont envie de passer des heures pas réelles de leur vie quotidienne.
Alors pour préciser, le SM, donc, c'est le sadomasochisme. Et les gens viennent là en spectacle, enfin voir un spectacle, ou interactivement participer au spectacle.
Pour participer au spectacle entre deux personnes, c'est comme un théâtre. Enfin, la plupart c'est du fiction, mais parfois on se sent dans une réalité, même dans une scène SMtique. Il y a beaucoup de jeunes gens qui vont dans les Love Hotel, mais pour le SM c'est plutôt pour les gens qui ont 40 ans ou 50 ans, qui ont assez de leur vie quotidienne. Pendant la journée, ils sont très, très sérieux dans leur bureau, etc. Mais après le travail, ils aiment venir à ces endroits-là. Il y avait depuis longtemps des endroits comme ça, des endroits sexuels. Et dans cet endroit, on est toujours libre. On n'est jamais entouré des choses sérieuses. On avait besoin des endroits pour se libérer. Thank you.
tu étais reine d'un club SM. Ouais. Comment est-ce que tu es venue à ce club? Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler là?
Quand j'étais à la dernière année à l'université, j'avais une amie qui travaillait. Et elle a été un peu malade du cœur. Elle avait assez de travailler entre des gens sérieux, des gens typiques japonais. Un jour, elle m'a dit qu'elle est vraiment épuisée de travailler entre ces gens, qu'elle a commencé à avoir envie de les gifler pendant son travail. Alors, j'ai dit, si tu cherches un travail qu'on peut gifler des gens, c'est mieux. Et puis on est allé ensemble chercher des clubs SM. Il y avait plein de publicités qui demandaient des filles pour travailler là-dedans. Et on a décidé au premier club.
Quelles sont les conditions pour entrer dans un club SM?
La condition, c'est d'avoir une assez grande taille. Plus de... Au Japon, c'est une grande taille d'avoir... 165 cm. Et puis on doit avoir des jambes droites. Et quand on avait. On nous a dit ok, on a commencé à travailler. Il y a plein de mecs qui aiment les jambes, surtout les jambes. Pas les seins, mais les jambes. Il y avait des gens qui aiment être piétinés par les filles avec des high heels, des talons. Et surtout leur sexe, être piétinés sur le sexe. Ça fait mal, mais ils aiment.
Et donc, vous étiez deux jeunes étudiantes, de quoi, de 22 ans ?
23.
23 ans, comment s'est passé votre engagement là-bas ?
On a téléphoné à ce club et on s'est fait interviewer. Ils ont dit d'accord, alors vous travaillez dès ce jour-ci. D'abord, on a fait une leçon, comment on fait, et on a vu quelques vidéos où on a demandé aux autres filles comment elles faisaient. Dès ce jour-là, on a commencé à travailler. Alors... On a essayé d'être toujours sérieuse. Le début, on demande pourquoi ils sont devenus comme ça, pourquoi ils aiment des choses comme ça, quel genre de choses ils aiment. Et on commence. Il y a des gens qui paient pour toute la nuit, mais la plupart sont pour 2 ou 3 heures. Et c'est assez cher.
Et tu faisais ça tous les soirs après l'école ou c'était du plein temps?
J'y allais presque tous les jours, après l'école, pendant 6h à 11h. On nous payait 10 000 yens par une heure. C'est combien, 10 000 yens?
C'est 110 francs suisses, hein. C'est 80 dollars en gros.
Oui.
Parce que, en fait, t'avais quoi comme tenue? T'es assez couverte ou t'es...
Oui, tout à fait couverte. Mais la robe était assez courte, mais on mettait des bas, des talons, des chaussures. On n'avait jamais besoin d'enlever ses vêtements. On ne fait jamais le sexe.
Mais toi, qu'est-ce que tu ressentais en faisant ça? Tu devais être sérieuse pour le travail, mais au fond de toi, c'était quoi ton impression en sortant d'une séance, par exemple?
Moi, je me sentais très bien et je l'ai trouvé très charmant parce qu'il était très gentil. Et même après la session, on bavardait ensemble, on buvait un verre peut-être autre part. Et ils étaient tout à fait différents après la session. Et moi, j'aimais bien faire le SM, je pense.
Thank you.
Ça, ce qu'on entend à l'instant, et ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est du shamisen. Le shamisen, c'est une petite guitare, avec une toute petite caisse de résonance, qui est un instrument traditionnel, très 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 vieux.
Et c'est Aya qui nous a emmené voir ce concert au cabaret théâtre Le Jean-Jean, qui est un des rares endroits de ce type à Tokyo. Et en fait, il va fermer ses portes parce que ça fait 30 ans qu'il existe. Ils avaient décidé à sa fondation qu'il fermerait à bout de 30 ans.
Étrange, étrange. Et puis c'est une toute petite dame qui est sur une scène. Elle est en tailleur, une petite scène carrée de 2 mètres sur 2. Elle est en tailleur, là au milieu. Il y a plein de personnes. Et puis pendant 2h30, on va écouter un concert comme ça. Alors, c'est très très joli. 2h30, on n'a pas encore l'expérience, enfin l'habitude pour nous, profanes total en la matière. Mais c'est une expérience qui vaut la peine, et puis elle nous racontait plein d'histoires en japonais, on n'a rien compris. Et puis ce qui est intéressant, c'est que cette femme, eh bien, elle s'appelle Monoyama Arvet Eis, et puis elle a joué pour Peter Brook, dans La Tempête, à Paris, au Bouffe du Nord, il y a de ça 2 ou 3 ans.
Aya nous a emmenés là parce qu'elle pensait que c'était un endroit important à connaître. Et en même temps, nous, quand on a vu ce concert et puis qu'on a un peu regardé Aya de plus près, on s'est dit, c'est quand même un peu étrange, c'est un peu paradoxal. Aya, c'est celle qui est reine dans un club sadomasochiste, c'est celle qui nous fait découvrir les Love Hotels, qui nous montre ce quartier de Mamoyama, qui est un quartier de plaisir. Et puis, de l'autre côté, c'est elle qui va passer 2 heures à écouter du shamisen, avec des gens de 40 ans, habillés plus traditionnellement. Et ben voilà, ça c'est tout le paradoxe japonais, en tout cas de ce qu'on a pu en percevoir. Aya, c'est vraiment, c'est pas du tout, elle n'est pas du tout représentative de la société, mais elle en est quand même un symbole. Parce qu'elle est à la fois très traditionnelle, puisque c'est elle qui va dire il faut que les gens, les jeunes, au bout de, quand ils ont 25 ans, il faut qu'ils rentrent dans le moule, parce que sinon la société elle peut pas fonctionner. Et de l'autre côté, c'est elle qui pense que pour gagner un peu de sous, eh ben, on peut travailler dans des clubs sadomasochistes, on peut travailler dans les love hotels, etc. Donc c'est vraiment, elle est les deux opposés de cette société, les deux aspects les plus extrêmes.
Ça nous a vraiment frappé ça, on a eu l'impression face à elle de passer pour des pauvres petits Suisses puritains, ce rapport justement au sexe, ce rapport à la prostitution. Ça nous a beaucoup frappé parce qu'il n'y a aucune limite, on a l'impression. Quand on parlait, quand on disait mais comment ça se passe, est-ce qu'il y a des lois contre la prostitution, est-ce qu'il y a un âge sexuel limite, on disait ben non, ben écoute, c'est un peu vague, en tout cas jusqu'à maintenant il n'y a rien, il y a une loi qui vient de venir, mais on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Et c'est très très étrange parce que nous on disait mais alors des filles qui se prostituent à 15 ans, qu'est-ce qu'elles vont faire après à 25 ans, est-ce qu'elles auront des troubles? Nous on imagine ici des troubles psychologiques, des troubles physiques, tout ce que ça peut marquer une expérience de ce genre. Et nous disait non non mais oui mais c'est un peu un problème parce qu'à 25 ans ben elles ne pourront plus passer pour des petites lycéennes et puis elles vont être frustrées parce qu'elles auront plus d'argent. C'est le seul problème qui semblait tomber découdre en fait de cette histoire.
Et c'est vrai que dans ce cas-là les femmes après comme les hommes rentrent dans le moule et c'est-à-dire deviennent des femmes très en retrait dans la société, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les femmes au Japon, elles ne sont pas très très présentes dans le monde public, c'est-à-dire qu'il y a peu de femmes dans le monde du travail. On parle de fleurs de bureau pour parler des emplois fictifs en fait, qu'on crée pour les femmes, c'est-à-dire avant le mariage, on leur donne des postes de secrétaire.
Et c'est mentionné sur le contrat, en tout cas jusqu'à peu, comme quoi dès le jour où elles étaient mariées, elles n'avaient plus le droit à ce travail.
Et puis bah, quand enfin elles accèdent à un travail, souvent les salaires sont bien entendu disproportionnés. Mais ils sont pas disproportionnés, ils sont
totalement inéquitables.
Ils sont inéquitables entre les hommes et les femmes.
Et même dans le travail, si on compare les salaires, il n'y a rien à voir entre le salaire d'un homme et le salaire d'une femme.
Voilà, et puis il y a autre chose qui nous a vraiment frappé, c'est que la pilule qui aujourd'hui dans la plupart des pays industrialisés est chose courante, hein, la pilule contraceptive, eh bien ce n'est que depuis quelques mois qu'elle est enfin sur les marchés au Japon.
Alors il y avait quelques exemples sur ordonnance très 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 spéciale, mais comme une prescription ici très dangereuse, mais elle n'était pas du tout
banalisée. Et donc les femmes ne connaissaient pas la pilule contraceptive dans l'un des pays les plus modernes du monde.
Alors pour faire un rapport justement entre l'équité homme-femme, la pilule interdite, enfin il y a eu 10 ans de démarche pour qu'elle soit autorisée, et puis alors tout à l'autre opposé.
Et ben le Viagra, là on dit une pilule Viagra, oui. La pilule Viagra par contre a mis 6 mois pour atterrir sur les marchés japonais. Donc la virilité masculine n'a pas de prix par rapport à la contraception féminine.
Et puis au printemps alors qu'on y était, tout le monde nous disait vous voyez, voyez la différence, hein ? Comment parler d'équitabilité là au milieu ?
Donc cette visite dans les quartiers de Shibuya et Miyamoto prend fin ici. On laisse Aya retourner à ses activités beaucoup plus studieuses qu'avant, c'est-à-dire qu'en fait elle est dans une des plus grandes universités de Tokyo aujourd'hui. Donc après avoir été reine dans les clubs SM, et ben maintenant elle travaille, elle est une étudiante modèle.
Et si aujourd'hui on a voulu vous parler de tout ça, c'est parce que c'est le sujet qui nous a le plus intrigué et le plus surpris au Japon aujourd'hui.
Et celui qu'on a le moins compris aussi. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de questions à poser à Aya aujourd'hui.
C'est dire mais comment on fait ? Comment on fait pour être jeune ? Comment on fait pour se rencontrer aussi entre hommes et femmes lorsqu'on ne peut pas marcher dans la rue ou on ne s'embrasse pas dans le métro ? Ce genre de questions qu'on se reposera peut-être plus tard en Iran, mais avec pourtant une tellement autre idée entre l'Iran et le Japon. Eh bien oui, le Japon, c'est lui qui nous a le plus intrigués.
Fred et Julie sur la première, c'est la fin de cette deuxième émission sur le Japon.
Et la sixième étape de ce voyage eurasiatique.
Mais attention, c'est pas fini, car la semaine prochaine, nous vous retrouvons samedi, donc à 16h.
Toujours au Japon.
Mais complètement dans un autre quartier. Ça sera pas Shibuya, le quartier des jeunes. Ça sera pas Bunkyoku, le quartier traditionnel.
Mais on va rencontrer quelqu'un d'exceptionnel.
Et oui, tout en haut d'une grande, grande tour, très moche, bien Tokyo, comme ça, avec la vue sur toute la ville. Et bien, au tout dernier étage, village, il y a quelqu'un qui nous ouvrira sa porte.
Et ce quelqu'un, vous le connaissez peut-être, vous le connaissez certainement.
En tout cas dans les oreilles.
Surprise, surprise, rendez-vous donc au pied de cet immeuble, samedi prochain, 16h.
Et en attendant, avant de repartir, cette émission a été réalisée par Frédéric Chauffa et Julie Gilbert.
Et puis avec la technique là-bas derrière les boutons qui s'occupe de tout et qui fait que tout va bien, que tout roule, c'est Patrick Deram.
Et derrière les chansons, les choix musicaux, Carmen Algarada.
Qui nous a permis d'écouter aujourd'hui Audioactive, Pizzicato 5, Shang Shang Typhoon 3, et puis Sakamoto, ainsi qu'une voix exceptionnelle, vous l'aurez reconnue, c'est un peu la nouvelle Lolita du Japon, Nami Amuro. Samedi prochain donc, 16h Tokyo, ensuite nous partons pour l'Inde, l'Iran et la suite de ce voyage eurasiatique.
Radio Suisse Romande, la première, au Okurimasu. Goji desu.
Radio Suisse Romande, la première, il est 17h.